Narcisse-Henri-Édouard Fauché de Saint-Maurice à la Brunante. Dodo, l'enfant. Partie 1, Marguerite de cimetière. Je ne sais si je l'ai déjà dit, mais ma grand-mère était petite, frêle, vive, à la riposte, bonne pourtant, comme toutes les âmes trempées dans la foi, et par-dessus tout, charitable, à faire reprendre au prophète Élie ce vieux manteau éternellement troué et râpé, qui nous arrive encore si parfumé, porté sur les ailes d'or de la légende biblique. Les qualités de ma grand-mère se font rares en nos jours de politique et d'agiotage. Et si par hasard je vous avais déjà dit ce qu'elles étaient, il est bon que je vous le dise encore. Dans notre famille, ma grand-mère a joué le rôle des grands génies vis-à-vis de l'humanité. Douce, prévoyante, parole convaincue, ferme et ardente, excellent conseiller, dévotion angélique, chez nous, elle a tout conservé, tout embaumé sur son passage. Aussi, lorsque nous la nommons, nos voix tremblent, nos cœurs s'émeuvent. Et à cette heure même, une larme coule sur ma joue et se mêle à ses lignes. C'est que, voyez-vous, son lot sur terre n'a pas été ce qu'il y a de plus rose. Nous étions 10 à la maison. Tout cela criait et mangeait. Plus que pauvreté ne l'exigeait, tout cela avait besoin de louanges, de réprimandes, d'avis, de douces paroles, de pénitences et de bonbons. Et, Dieu merci, rien ne nous a manqué de ces choses nécessaires, les bonbons inclusivement. Quand, à travers les années, je me retourne vers mon enfance si lointaine et si joyeuse, je revois encore ma grand-mère tricotant frileusement au coin de son feu et racontant à ses petits-enfants réunis autour d'elle les infortunes du chaperon rouge, les grandeurs de peau d'âne, la conduite inconvenante de Barbe Bleue et les pérégrinations du petit Pousset. Comme on se pelotonnait et comme on se serrait les uns à côté des autres lorsque elle disait en asillant
« Ma grand-mère, pourquoi avez-vous de grandes dents ?»«
C'est pour mieux vous manger, mes enfants !»
reprenait la même voix un peu grossie et tout ce petit monde effrayé de se sauver, de s'éparpiller. Le petit chaperon rouge était l'épouvantail infaillible qui nous dispersait tous lorsque Mère Grand voulait se recueillir. Augusta, Joséphine, Alice se réfugiait alors auprès de maman, qui faisait le raccommodage du jour. Jules montait son superbe cheval de bois, Arthur revêtant ses habits pontificaux taillés dans du beau papier doré, disait sa messe. Émile écoutait les ronrons du chat et demandait à mon père « Comment était faite cette étrange musique que roucoulait l'inoffensif matou ?» Henri sonnait de la trompette comme si les modestes murs de la maison eussent été les murailles de Jéricho. Napoléon, les doigts étendus devant la lampe, tâchait de façonner sur la tapisserie récalcitrante l'ombre du profil d'un lapin. Et Mère Grande, joyeuse, libre et débarrassée de cette meute aboyante, se livrait alors au plaisir favori de la journée. Elle endormait le petit Charles. Petit Charles était le Benjamin de ma mère. Trop grand pour son âge, maigre, souffreteux, en le voyant, on pressentait qu'un jour il partirait et cesserait d'être notre frère pour devenir l'ange gardien de la famille. Aussi, l'une des berceuses favorites de ma grand-mère était celle qui commence ainsi.
les anges de ton âge dorment leur doux sommeil, bercés dans les nuages, soyeux frais et vermeils. Le rideau sans le voile de la mer d'amour, le lampe d'une étoile du céleste séjour.
D'autres fois, penchant sa figure ridée et blanchie par l'expérience et par l'âge sur le visage émacié du petit, grand-mère fredonnait doucement la triste complainte de Vautelin. Une respiration douce mais sifflante répondait à la lugubre ballade. Charles s'endormait petit à petit, et Mère Grand, lui passant au cou le chapelet du pape, se levait alors sur la pointe des pieds et allait le déposer sans bruit dans la petite couchette en noyer tendre qui est devenue aujourd'hui l'héritage des sœurs grises. Le chapelet du pape, ah! C'était moi qui, dans une de mes longues courses par le monde, lui avais rapporté cette précieuse relique. 10 fois dans le mois, grand-mère me faisait raconter comment je l'avais eue, et puisque ces choses me reviennent toujours à la mémoire, vaut autant vous les raconter tout de suite. Bien que ma grand-mère soit morte, je suis persuadé que son âme m'écoutera avec autant de plaisir que jadis. Et il me semble l'entendre me dire, tout en conduisant ses aiguilles dans la trame de son tricot,
« Eh bien, Henri, tu as donc eu la chance de voir le pape ?»«
Oui, grand-mère, je l'ai vu, je lui ai parlé, et il nous a bénis, vous en particulier. »«
Allons, raconte-moi ça, mon enfant, et tâche de te bien rappeler toutes ces paroles. La mémoire est un des dons du Saint-Esprit, et... tous les jours, je remercie le bon Dieu de me l'avoir conservé. »
Alors, les aiguilles s'arrêtaient dans le tricot, ma mère déposait son dé et ses fuseaux sur le livre entrouvert de mon père et toute la bruyante nichée se rapprochait pour saisir, à qui mieux, les premières paroles de mon récit. «
Grand-mère,
commençais-je, alors, vous n'êtes pas sans ignorer que le pape demeure au Vatican. » Immense palais situé à droite de la basilique de l'apôtre Pierre. Or, par un dimanche tout ensoleillé, comme j'étais en train de dégringoler les piani de mon hôtel pour aller dîner à la Trattoria delle Lepre dans la Via Condotti, je m'arrêtai tout court sur l'une des marches du dernier escalier car un bruit de voix sonore sortait de la loge du concierge. Mon nom fut prononcé, puis j'entendis le bruit sec et métallique d'une molette d'éperon battant le parquet en marbre. C'était un dragon pontifical qui venait m'apporter un billet de Monseigneur Negrotto, m'annonçant que sa sainteté me recevrait en audience, ce jour-là même, à 2 heures précises. Sollicité depuis plusieurs jours, cette audience était sans cesse remise, et puis, dois-je vous l'avouer, grand-mère, il fallait quitter Rome bientôt, et mon cœur se désespérait. Mais il s'agissait bien de cela, maintenant. La lettre de Monsignor était là, sur ma table, et il ne faut pas s'étonner si, ce jour-là, le dîner fut oublié. Nous avions autre chose à penser. D'abord, je dis nous, car il fallait se procurer un long voile pour Joséphine, les femmes n'étant pas admises au Vatican que voilées et vêtues de noir. Il fallait encore rassembler tous les objets de piété que nous voulions rapporter bénis en Canada, puis trouver quelques minutes pour nous recueillir un peu. Car c'était à ne pas y croire, grand-mère, dans 1 heure, nous allions parler au pape. À 1 heure 3 quarts, pourtant, tout était prêt. Une voiture de place nous attendait et bientôt nous traversions rapidement le pont Saint-Ange pour ne plus nous arrêter qu'en face de la statue équestre de Constantin. Nous étions au Vatican et ce fut l'âme joyeuse, le cœur léger que nous passâmes entre les hallebardiers suisses et que nous montâmes l'immense escalier qui conduit à la salle des audiences publiques. Une trentaine de personnes y étaient déjà réunies. C'étaient des prêtres, des religieuses, deux militaires, trois ou quatre bourgeois, un attaché d'ambassade, que sais-je moi, et mon œil se plaisait à errer curieusement de groupe en groupe, lorsqu'un bruit sec traversa la salle et l'une des portes latérales s'ouvrit pour laisser passer trois prélats vêtus de violet. Au milieu d'eux marchait un homme de haute stature, un peu replet, ayant le pas d'un officier de cavalerie, et portant droite et fière une tête resplendissante de calme et de paix intérieure. Nos genoux fléchirent involontairement. À sa soutane blanche, nous avions reconnu Pie-IX. Mais lui, d'un geste tout paternel, nous fit relever, et commençant par la droite, il adressa cordialement la parole à celui qui se trouva le premier sur son passage. C'était un trappiste. J'étais du côté privilégié, mais à la queue, tout à fait près de la porte de sortie. Cela me donna le temps de songer que ma pauvre tête ne trouverait pas une seule parole à prononcer. Et pourtant, il approchait, grand-mère, et à mesure qu'il avançait, j'entendais distinctement mon cœur battre comme un marteau de forgeron. Déjà, le pape était arrivé à mon voisin. Ma timidité était devenue de l'insouciance. Je me sentais entré dans le rêve lorsque tout à coup une voix claire, sympathique, fortement nuancée d'accent italien me dit en français « D'où êtes-vous, mon enfant ?»« Du Canada, » répondis-je en levant les yeux. Le pape était là, debout, devant moi. « Ah ah ! De mon pays de prédilection !» continua-t-il en souriant. « Votre patrie est une terre de braves. Une terre d'exemple et de bénédiction. » Puis, changeant brusquement de sujet, « Votre évêque n'est-il pas Monseigneur Gion Region ?»« Monseigneur Baillargeon, votre sainteté. » »« Ah, bien, bien. Je me remets son nom maintenant. C'est moi qui l'ai nommé, mais il y en a tant que je ne puis me les rappeler tous. « Ah, j'ai bien travaillé pour votre pays. C'est moi qui ai érigé le diocèse de Beetown, les Trois-Rivières, de Saint-Hyacinthe, de Hamilton, du Sandwich et de... C'est le dernier, celui-là. Il a presque un nom polonais, mais on m'a dit que c'était un nom sauvage. Probablement le diocèse de Rimouski, votre sainteté. »
« Celui-là même, mon enfant. Ah, si Dieu daigne préserver ma vie, je ferai encore autre chose pour vous, pour l'Amérique, avec l'aide du Saint-Esprit de sa grâce. »
Puis, se tournant du côté de ma femme qui se tenait debout près de moi,
« Quelle est cette dame? Votre sœur, sans doute. »
« Pardon, Saint-Père. » C'est ma femme.
Votre femme? Mais vous êtes bien jeunes, tous les deux, mes enfants.
Que voulez-vous, Saint-Père? J'ai cru prudent de ne pas attendre l'âge respectable des antiques patriarches, et je me suis marié depuis un an. Le pape se prit à rire de ce gros rire métallique qui lui est particulier en disant « Ah!
C'est bien, très bien, mes enfants. »
Puis, redevenant grave tout à coup,
« Maintenant, je vais vous bénir, ainsi que les objets de dévotion que je vous vois entre les mains. »
Nous nous agenouillâmes, et c'est en ce moment que je demandai au pape l'indulgence in articulo mortis pour vous, grand-mère, ainsi que pour tous les membres de la famille. Pie-IX leva la main. Vous étiez tous bénis, et la faveur suprême nous était accordée. Le pape allait s'éloigner et traverser la salle lorsque, en retournant d'un pas, il laissa tomber cette question.
« Et que faites-vous là-bas, au Canada ? »
Je suis officier du gouvernement canadien et à mes heures de loisir, je m'occupe de littérature. Alors, revenant vers moi et me regardant fixément, il dit en scandant chaque mot « La plume est une puissance plus grande que l'épée. Et c'est par elle que la Bible et l'Évangile nous ont été transmis. Servez-vous toujours de la vôtre avec des intentions de paix, de justice et de dévouement à l'Église votre mère. » Il devint rêveur une seconde, puis reprit. « Quand vous serez retourné là-bas, mon enfant, dites à vos compatriotes que vous avez vu le pape et que, fort de la parole toute-puissante et des dieux, il ne craint rien des embûches que l'on vous tend. L'Église catholique a soif de persécution. Elle forme la sève de son tronc vivace. Et puis, et plus elle ne semble forte, plus la cime de l'arbre immortal grandit et s'élève majestueuse vers l'éternité. » Il nous quitta alors et parcourut jusqu'au dernier les divers groupes qui étaient disséminés dans la salle. Puis, lorsqu'une bonne parole eut été donnée à chacun, le pape s'approcha de quelques marches disposées au fond de l'appartement et, redressant sa haute stature, se prit à dire d'une voix forte à la foule prosternée de nouveau. « Mes enfants, voici l'heure venue de vous donner ma bénédiction. Je vous bénis, vous et vos parents. Et cette bénédiction ira s'étendre jusqu'à la quatrième génération. Je bénis vos proches, vos amis, tous ceux qui vous aiment. Je bénis vos pays, vos évêques, vos prêtres et tous ceux qui vous gouvernent, afin que vous soyez toujours dans la voie droite et que vous persévériez jusqu'au jour où, je l'espère, nous nous rencontrerons tous dans la félicité sans bornes. Élevez vos cœurs, priez pour être tous pénétrés des dons et des lumières du Saint-Esprit. Et au jour où, brisé par l'agonie, vous vous tordrez, plein de terreur sur l'oreiller solitario de la morte, vous vous apercevrez, quoi qu'en disent les beaux esprits et les libres penseurs, que la bénédiction de l'humble vicaire du Christ peut encore et pourra toujours jusqu'à la fin des siècles anéantir la puissance du démon et de son cortège immonde. Allez en paix et soyez tous bénis, nel nome del Padre et del Figlio et de l'Espirito Santo. Un silence profond suivait toujours ce récit. Chacun se recueillait et semblait se répéter les dernières paroles du pape. Appuyé dans sa berceuse, grand-mère joignait ses mains sur ses genoux. Alors, les rôles paraissaient intervertis. Et la tête inclinée, elle semblait ainsi recevoir de son petit-fils cette bénédiction que Pie IX l'avait chargée de répandre sur tous les siens. Puis, sa voix tremblante disait
« Et le chapelet, Henri, tu ne t'es pas trompé, c'est bien celui du pape. »
« Oui, grand-mère, c'est bien lui. » Alors, elle se levait lentement et s'en allait, appuyée sur sa canne de frêne, l'enlever des mains du petit Charles endormi. Elle baisait avec ferveur le saint souvenir. Ses lèvres tremblaient en murmurant « l'Ave » et ses doigts roidis et noués par l'âge couraient pieusement sur les dizaines à la file les uns des autres. Pour elle, la soirée s'envolait ainsi, portée par les anges aux pieds de Marie, et ce fut comme cela que le chapelet devint un des plus grands enseignements de notre famille. Si vous vous en souvenez bien, nous étions une nichée de 10 à la maison. Or, petit à petit, chacun de nous avait fini par sortir la tête hors du nid. L'imprudent mesurait l'espace un instant, battait de l'aile, puis finissait par prendre sa volée. Les uns partirent pour l'étranger, d'autres pour le collège, d'autres encore pour le couvent. Et un jour, grand-mère se trouva seule avec le petit Charles. Que de douces choses et de leçons salutaires durent sortir de ce tête-à-tête d'un siècle presque entier et d'un enfant de 8 ans. Car mère grande en était arrivée à ces moments que l'écriture appelle les années qui ne plaisent pas. Et elle avait 80 ans comptés. Inquiet et toujours souffreteux, l'aiguillon du mal avait développé l'intelligence de Charles, qui ne cessait de s'enquérir de tout et surtout. Grand-mère mettait alors à son service sa longue expérience et la sagesse de ses vieux ans. C'étaient là les hochets de l'enfant, et rien n'égalait la joie charmante qu'il éprouvait lorsque la leçon se cachait sous un de ses contes, comme elle seule savait nous les dire. Une nuit pourtant, ses lèvres fines et gauloises se fermèrent, à tout jamais. Une faible indisposition s'était déclarée, puis survint un léger étourdissement. Alors, grand-mère avait voulu se faire transporter sur le canapé où 50 ans auparavant son mari était mort. Et là, sans douleur et sans remords, elle avait remis son âme entre les mains du Créateur. Dans la maison, ce fut pire que l'abomination de la désolation. Tout le monde sanglotait, et pourtant il fallut bien se séparer de la chair dépouille. Grand-mère prit donc le chemin du cimetière, suivi d'un convoi bien mince. Les justes laissent si peu de traces ici-bas. Mon compagnon de route et de tristesse fut le petit Charles. Sa main dans la mienne, il marchait à pas inégaux, les yeux rougis, sans trop savoir pourquoi. C'était le premier mort qui traversait sa vie. Et le pauvre enfant ignorait encore le profond mystère de la tombe. Il fut silencieux jusqu'à la fosse. Mais lorsque les cordes crièrent, lorsque le cercueil balancé au-dessus du trou fut déposé sur son lit de terre, lorsque le premier coup de pelle du fossoyeur eut gauchement fait rouler un gros caillou sur le couvercle de la bière. Charles me tira par la manche de mon habit et me força à me pencher jusqu'à son oreille.
« Pourquoi mettre grand-mère là-dedans »
dit-il.
« Est-ce que personne n'ira la réveiller? Mais regarde donc, Henri, il lui jette des pierres.
Pauvre enfant, mère grand est là parce qu'elle est morte. Ce trou est le chemin par où l'on passe pour aller voir le bon Dieu. Et elle n'en sortira plus qu'au jour du jugement. Alors seulement les morts se réveilleront. » Pendant que la terre se nivelait, Charles ne dit plus rien, mais au tremblement de sa petite main, je sentis qu'il avait compris. Et ce soir-là, je l'entendis pleurer tout bas dans son lit. Cette journée des funérailles avait été humide, et vers la veillée, le vent de nord-est se mit à souffler. Dans la nuit, Charles eut un léger accès de fièvre, et pour l'endormir, je fus forcé de remplacer grand-mère et de lui chanter la navrante berceuse de Voitelin. Dodo l'enfant, partie 2, un fil de la Vierge. Dans la maison, le silence et le deuil étaient presque aussi grands que le vide qui s'y était fait. Plus de saillies, plus de gros rires joyeux, plus de récits à la veillée. Tout cela avait été déposé sur la tombe de grand-maman. Dans le recueillement et le travail, nous cherchions à nous étourdir sur la perte qui nous avait accablés. Et, pour faire comme les autres, je continuais à mettre la main à un long travail historique. D'habitude, j'écrivais de 4 à 6 heures l'après-midi dans une petite chambre située sous les mansardes. Là, je m'installais en face d'une lucarne qui s'ouvrait sur le plus beau des paysages laurentiens. Et pendant que les yeux perdus dans ce magnifique horizon qui se déroule entre la Canardière, l'île d'Orléans et Saint-Joseph-de-Lévis, pour aller se fermer à la cime bleuâtre du Cap Tourmente, je courais après l'idée fugitive. Charles se glissait sans bruit dans la chambrette et s'asseyait discrètement sur le tapis, en arrière de ma chaise. Il s'amusait alors à bâtir des maisonnettes et des petites chapelles avec ses piécettes de bois blanc que tournent si gentiment les ouvriers de Nuremberg. Puis, une fois le monument terminé, il tirait d'un coffret des images de ces mille et un riens qui réjouissent tant les enfants et en ornaient son chef-d'œuvre d'architecture. À le voir jouer ainsi, grave, insoucieux, je m'étais mis en tête qu'il avait déjà oublié celle qui l'avait tant aimée. Mais un jour que, fatigué de tous ses joujoux, il s'était assis sur la fenêtre, il me dit tranquillement, en me montrant les nuages gris qui couraient vers le golfe,
« Le temps est couvert comme pendant la journée où l'on enterra mes mères. »
Alors je vis qu'il y pensait toujours. Cela se passait en juin, et l'on sait que notre fête nationale tombe le 24 de ce mois. Or, je ne puis résister au plaisir de vous raconter ce qui arriva alors. Le jour de la Saint-Jean-Baptiste, il faisait un soleil à ravir. Les trottoirs étaient balayés, les rues pavoisées et bordées de verre et odorants érables. Partout les magasins étaient fermés, le plaisir régnait en maître, et sur chaque figure montait la fierté du vieux sang gaulois. Seule notre famille était muette au bruit joyeux qui partout bourdonnait sur les ailes de l'été. La veille, Charles s'était fait expliquer les splendeurs qui devaient défiler pendant cette journée du lendemain. Et quand, vers 10 heures du matin, les fanfares de la musique commencèrent à monter par les fenêtres entr'ouvertes et finirent par remplir toute la maison, n'y pouvant plus tenir, il courut dans ma chambre me demander
« Henri, veux-tu venir avec moi au bout de la rue Sainte-Ursule ? Nous verrons passer la procession. »
Je répondis « Je le veux bien. » Et nous descendîmes la petite côte qui se perd dans la rue Saint-Jean. Pauvre Charles ! Je sens encore dans le creux de la mienne le contact de sa petite main, recouverte d'un gant en fil blanc. Je le revois avec son pantalon bouffant, son gilet en velours noir, et ce léger chapeau de paille qui avait toutes les peines du monde à contenir les touffes rebelles de ses cheveux blonds, qui, les curieuses, finissaient toujours par s'échapper de ça et de là. Haussé sur le bout des pieds, il regardait passer toutes les merveilles du jour en poussant de petits cris d'admiration. D'abord, ce fut Jacques Cartier. Vêtu de l'habit sombre du XVIe siècle, le poing fièrement campé sur la garde de sa solide épée, rêvant encore au jour lointain de Donnacona, président au conseil de Stadacone. Puis venait un char immense, d'où s'élançait un bosquet de sapins et de mélèzes. Ces arbres coupés dans leur sève abritaient les débris de la nation huronne qui, en grand costume de guerre, la figure tatouée, le tomahawk et le scalpel à la ceinture, semblaient défier ainsi dans notre bonne et pacifique rue Saint-Jean les antiques ennemis de leur race, l'Iroquois et l'Algonquin. Derrière la tribu huronne marchait fièrement une presse, emblème du progrès et de la civilisation. Elle était traînée par 4 chevaux blancs richement caparaçonnés et 4 typographes en bras de chemise, la feuille d'érable épinglée au gilet, ne cessaient d'imprimer et de jeter à la foule une belle chanson patriotique faite pour la circonstance. Puis, tant que l'œil pouvait aller, on voyait s'enfoncer et disparaître sous l'arche de la porte Saint-Jean, maréchaux à cheval, bannières dorées et bleu azur, drapeaux blancs, haches d'armes et hallebardes, confréries, corps de métier, institutions savantes, bourgeois, ouvriers, étudiants. Charles admirait tout cela, mais il ne put contenir sa joie lorsque passa Saint-Jean-Baptiste lui-même, représenté par un bel enfant enveloppé dans une peau de fauve. Sa main tenait une croix d'où tombait une jolie banderole et ses yeux se baissaient amoureusement sur le plus gentil petit mouton blanc que puisse rêver une imagination d'enfant. La mignonne bête était couchée aux pieds de Jean et, en l'apercevant, Charles poussa un cri. Je me penchai vers lui et je crois lui avoir causé le plus grand plaisir de sa vie en le prenant dans mes bras, pour qu'il pût le voir encore mieux et de plus loin. Toutes ces merveilles furent racontées le soir même à ma mère. Et franchement, notre petit observateur sut les dire beaucoup mieux que je ne pourrais jamais les écrire. Ce fut là sa dernière sortie. Depuis lors, le médecin défendit le grand air et ses distractions se réfugièrent de nouveau parmi ses jouets. Il traîna ainsi tout l'automne sans se plaindre et sans avoir les caprices des mourants de son âge. Personne ne s'apercevait qu'il déclinait, si ce n'est ma mère qui passait presque tout son temps à lui enseigner le catéchisme et à le préparer à faire sa première communion. Dieu fut ses étrennes. Il le reçut le premier de l'an, et dès lors plus de joujoux, plus de ses chers bibelots qu'il aimait tant. Sa pensée était ailleurs. On eût dit que l'âme ne s'occupait plus de son enveloppe humaine, et le triste phénomène qu'un observateur profond et délicat, Jacques Auger, a constaté dans ses papillons roses, commença à s'accuser avec la plus foudroyante des rapidités. Vous vous rappelez sans doute que ce poète charmant et trop peu connu disait de ces petits êtres malingres, souffreteux, rachitiques, venus après plusieurs autres, de ces chérubins, suivant la formule des consolations mondaines qui, sur leur lit, se consument d'une façon si étrange. Eh bien, si vous ne vous en souvenez pas, il faut relire avec moi ce passage, si navrant de réalisme. Pour Charles, il en fut ainsi. « Pauvre petit, je m'étais un matin penché sur son berceau, je contemplais sa face amaigrie, et cette indéfinissable tristesse répandu sur ses traits singulièrement transformés. Sa mère s'approcha de moi et me dit « Tiens, vois-tu, comme il se fait vieux, ne dirait-on pas qu'il y a de la mousse sur ce visage jaune de cire ?» Il paraissait vieux, en effet. Il me semblait qu'il avait déjà passé à travers toutes les phases de la vie et qu'il était arrivé à la décrépitude en 4 mois. « Oui !» En 4 mois, petit Charles avait atteint l'âge de grand-maman. L'enfant de 8 ans en était rendu à ses 80 années. Et déjà les jours pour lui ne comptaient plus. L'art avait dit son dernier mot et il pouvait passer d'une minute à l'autre. Sous cette enveloppe ridée et décrépite, l'esprit seul conserva toute sa force et sa justesse. Il s'occupait de tout le monde, de ceux qu'il allait quitter, comme de ceux qu'il allait rejoindre. Et je pus le constater par moi-même. Un soir que je tirais une chaude courtepointe sur mon lit, il murmura faiblement « Écoute, Henri, comme il vente dehors, la neige poudre les vitres, et grand-mère doit avoir bien froid seule avec son drap blanc, dans le trou noir où vous l'avez descendu. Sa pensée s'enfouissait déjà dans la tombe. Il en subissait l'âcre attraction. Et le lendemain matin, vers 10 heures, montrant la famille en larmes, il disait au prêtre qui l'absolvait: « Regardez donc, monsieur, ils sont tous là, qui pleurent autour de moi, et moi, je me meurs. » On lui fit baiser le chapelet du pape, puis tout fut fini. Et c'est ainsi qu'il partit. Que me reste-t-il maintenant de ces joies, de ces sourires, de ces chants, de ces parfums de la vie de famille, de ces douces veillées que charmait la grave expérience de l'aïeul et les grâces enjouées de l'enfant? Deux boucles de cheveux, dont l'une, blanche marguerite de cimetière, cueillie sur la tempe de ma pauvre grand-mère. L'autre, blond fil de la Vierge échappé du front prédestiné de mon frère Charles, lorsqu'il s'envola rejoindre les anges de Bethléem et de Nazareth. Précieuse relique, je vous garde religieusement, et le culte que je vous porte fera rire bien des gens qui liront ces lignes. Peut-être s'égayeront-ils encore plus fort en apprenant que je pleure en les écrivant, mais que faire? Musset faisait rire de lui lorsqu'il exhalait l'acte d'humilité et de contrition qui se termine par ses vers. Le seul bien qui me reste au monde est d'avoir quelquefois pleuré. Je pleure donc en comptant mes morts chéris, et pourtant ce n'est pas ma faute de me surprendre à fredonner souvent la naïve berceuse de Voitelin. Dodo, l'enfant d'eau, garde tes larmes pour tantôt.